18h-20h, les experts de France Bleu Toulouse.
Allez, on ne traîne pas. Grand succès pour vous, Jean-Pierre Huguin, du Cercle Généalogique de Languedoc. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, vous êtes là chaque dimanche pour analyser les noms de famille de celles et ceux qui les proposent au 05 34 43 31 31. N'hésitez pas, vous déposez votre nom de famille, le nom de famille d'un proche, de quelqu'un dont vous voulez tout savoir. 05 34 43 31 31. C'est le standard de France Bleu Toulouse. C'est Blandine qui répond aujourd'hui, à qui vous direz bonjour. Et on va. Alors, on a une énormément trop tard parce qu'on a beaucoup beaucoup plus de demandes qu'on ne peut en passer. On va commencer très vite avec vous, Maryse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
Alors vous êtes à Castelnau d'Estrêtefonds.
Oui.
Faites-nous plaisir, est-ce qu'il y a un microclimat chez vous? Est-ce qu'il y a un petit peu de soleil?
Non. Aujourd'hui, c'est la pluie, mais nous sommes contents, ça fait du bien à la nature.
Voilà, c'est ça, on se console comme on peut. Alors quel est le nom que vous vouliez proposer à Jean-Pierre Huguin, s'il vous plaît?
S-A-U-R-E-L.
Alors, est-ce que c'est un nom qui vous a posé problème, Jean-Pierre Huguin, déjà?
Point du tout.
Ah,
point du tout.
On va dire que c'est une évidence, presque.
Pas une évidence, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est un nom que j'avais déjà travaillé à cause d'une personnalité de notre grande région.
D'accord.
Voilà. Ah, oui, c'est vrai, oui.
Alors, vous savez à qui je pense?
Bien sûr, oui.
Bon, d'accord. Il est de votre famille, peut-être, Philippe, non?
Oh non, certainement pas.
Non? Bon.
Certainement pas. Attention. Alors, l'origine du nom Sorel?
Alors, c'est un nom en particulier qui est porté dans des régions bien, bien précises et surtout dans des départements bien précis, en particulier dans l'Aveyron, mais on le trouve aussi dans la Drôme, dans le Vaucluse et également dans le Puy-de-Dôme.
Alors là, oui, nous avons une suite de variantes qui est assez impressionnante.
Oui, alors il y a une variante, en fait, il faut un petit peu faire une déclinaison. Sorel, tel que vous l'avez écrit, S-A-U-R-E-L, en fait, c'est une variante du mot Sorel, S-O-R-E-L.
O-R-E-L, oui.
Voilà.
Oui.
Et ce nom S-O-R-E-L, c'est lui qui est surtout porté dans la Mayenne et la Seine-Maritime.
Ouais.
Et en fait, Sorel, avec un O ou avec A-U, viennent du nom Soret, S-O-R-E-T.
Oui.
C'est un nom qui est très fréquent dans toute la France, mais en particulier dans le département de Maine-et-Loire. C'est un diminutif de Sor, S-O ou S-A-U, R.
Ouais.
Et c'est un surnom qui est donné à celui qui avait les cheveux fauves, c'est-à-dire blond roux, voire châtain.
Ah, d'accord.
Voilà. Vous avez les cheveux de quelle couleur, Maryse?
Châtain.
Ah non,
il y en a un peu, dans la famille, il y en a un peu de toutes les couleurs.
D'accord.
Alors, comme l'a dit Pascal, il y a énormément de variantes, effectivement, sur le nom de Sorel. Il y a Sorio, avec A-U-X, avec Sorio, I-O-T. Il y a Sorlin, également. Alors, tout ça, c'est des régions bien précises de France, hein, où on porte ces variantes, et vous le trouverez sur la fiche qui sera disponible sur le site de l'association dès demain.
Très bien, le site Cercle Généalogique de Languedoc, dont vous retrouvez déjà l'adresse sur le Facebook officiel de France Bleu Toulouse. Maryse, vous saviez tout ça?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ben je suis fixé sur l'origine de mon nom.
Absolument. Et on va terminer d'ailleurs en parlant de la personnalité qui porte le même nom que vous, Philippe Sorel.
Oui, Philippe Sorel. Bon, bien évidemment, homme politique français, maire de Montpellier depuis le mois d'avril 2014, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Au départ, c'est un chirurgien dentiste, métier que beaucoup ignorent.
Oui.
Mais Philippe Sorel est effectivement chirurgien dentiste.
Ça mène à tout, hein, c'est...
Oui, absolument. Il a après passé un DEUG en histoire de l'art également, plus un diplôme d'études approfondies de sociologie, et en plus un diplôme de troisième cycle en socio-économie de la santé et un enseignement de géographie en structure et aménagement de l'espace.
Ah, bah dites donc, il s'est tâté avant de trouver son chemin.
Ah, oui, voilà. Alors, donc, c'est quelqu'un que je connais, puisque c'est quelqu'un qui, en fait, fait partie d'une confrérie qui s'appelle les Barons de Caravette, qui est une association sur Montpellier qui célèbre les Montpellierins de souche, et il en est le président.
D'accord.
Bon. Mais c'est parfait.
Ben voilà.
Je vous remercie pour tous ces détails.
Merci beaucoup, Maryse. Juste un petit dernier, juste les données démographiques avant qu'on se quitte. Maryse, le nombre de naissances en France portant le nom Sorel?
Alors, suivant l'orthographe S-A-U-R-E-L, 1902 naissances en France, donc 304 dans l'Aveyron, c'est ce que je disais tout à l'heure en début, 259 dans le département du Vaucluse et 141 dans la Drôme.
Vous savez tout, Maryse?
C'est parfait, je vous remercie.
Très bon dimanche, à bientôt.
Au revoir, bonne journée.
Merci.
Merci, Bernard. Vous êtes à Bozelle. Maryse est à Castelnau d'Estrêtefonds. Vous, Bernard, vous êtes à Bozelle. Bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour. Comment allez-vous?
Eh bien, très bien, ça va.
Alors, on va parler de votre nom, et on va en parler tout de suite, parce qu'on a quand même vraiment beaucoup de matière aujourd'hui. Quel est le nom que vous vouliez faire étudier?
Alors, Chapeau, C-H-A-P-O-T.
C'est le vôtre ? C'est votre nom à vous ?
C'est le mien.
D'accord.
C'est le mien.
Jean-Pierre Huguin, je me tourne vers vous.
Alors. Et je vais me retourner vers Bernard. Est-ce que vous avez une petite idée de votre nom ?
Mon grand-père avait fait des recherches, un petit peu avait fait faire des recherches, mais apparemment, il y avait une origine, ça viendrait de charpentier, ou c'est ce que j'avais, mais j'en suis pas sûr, parce que ça fait très longtemps qu'il avait fait ça.
Eh bien, vous pouvez en être certain.
Ah.
Voilà. En fait, c'est ce nom chapeau désigne un substantif verbal qui est chapeauté. Comme le verbe chapeauter, mais pas P-E-A-U, hein, P-O-T-E-R.
Je
n'ai
pas pensé au chapeau, je n'ai pas bien le rapport.
Et en fait, chapeauter, c'est l'action de dégrossir une pièce de bois. Donc, c'est un nom de famille qui représente en ancien français le surnom de charpentier, effectivement.
Tout simplement. Ah ben donc, les recherches étaient tout à fait correctes de votre côté. Alors, on a peut-être quelques précisions à apporter, notamment l'endroit où on porte le plus le nom.
Alors, c'est surtout la région Rhône-Alpes, en particulier trois départements, l'Isère, la Loire et le Rhône.
Ah d'accord.
Voilà.
Oui.
Alors, il n'est pas très compliqué ce nom, parce qu'en fait, même au niveau des variantes, vous n'en avez pas trouvé beaucoup.
Non, il n'y en a qu'une seule que j'ai trouvée, c'est chapeau, mais avec deux P tout simplement, qu'on trouve d'ailleurs un peu aussi dans la même région Rhône-Alpes, puisqu'on le trouve dans le Doubs et en Haute-Savoie.
Alors, nombre de naissances en France, pour les fameuses données démographiques, pour confirmer tout ça.
Qui recoupe un petit peu ce dont nous avons parlé, 1674 naissances, 276 dans le Rhône, 264 dans l'Isère, 158 dans la Loire, et je me suis dit quand même, il faut que j'en trouve dans notre département, dans notre région Midi-Pyrénées, j'ai trouvé 92 naissances en Ariège.
Bon, voilà.
Ah, en Ariège, mes parents sont ariégeois.
Ah, bah voyez.
Voilà, tout se regroupe.
Tout s'explique, tout va bien.
Tout s'explique.
Vous avez les données complémentaires. Bernard, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés. Je vais vous souhaiter un très beau dimanche, à vous qui êtes à Bozelle.
Si, encore merci à Blandino pour sa gentillesse.
Eh bien écoutez, on la salue également et ça va lui faire très très plaisir. Merci Bernard. Vous aussi, vous voulez faire étudier votre nom de famille, c'est le moment de nous appeler 05 34 43 31 31. Dans un petit instant, on va parler, d'ailleurs Janine, vous êtes déjà avec nous, bonjour, on va parler du nom que vous vouliez faire étudier. Lequel est-il s'il vous plaît?
Thalaïs.
Très bien, vous ne bougez pas sur France Bleu Toulouse, à tout de suite.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. La tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas. n'aurait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Tous mes tours diront
sur France Bleu Toulouse, mon manège à moi. Il est 9h19.
France Bleu Toulouse, France Bleu Toulouse. Jusqu'à 10h, les experts.
Experts généalogie, comme chaque dimanche sur France Bleu Toulouse avec Jean-Pierre Huguin du Cercle Généalogique de Languedoc. Janine, vous êtes à Cugnot, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous voulez faire étudier votre nom de famille, vous allez nous le redonner s'il vous plaît.
Alors, Thalaisa, ça s'écrit T comme Thérèse, A-L A-Y-2-S-A-T.
Jean-Pierre Huguin. Je vous présente Janine. Janine, je vous présente Jean-Pierre Huguin. Non, mais je préfère commencer gentiment parce que déjà, Jean-Pierre Huguin, il a froncé les sourcils en entendant non pas l'orthographe de votre nom, ni même votre nom, mais la façon dont vous le prononcez. Jean-Pierre Huguin, vous n'avez pas l'air d'accord.
Ah, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Et Janine m'a appris quelque chose. Vous ne prononcez pas le T final.
Ah non, 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 c'est lui.
Non, bah, non, Jean-Pierre, non, non, voyons.
Vous êtes une occitaniste convaincue ?
Pardon ?
Je dis, vous êtes une occitaniste convaincue ?
Mais on ne l'a jamais prononcé, donc moi je continue.
Non, mais il ne s'agit pas d'une critique. Hein, c'est juste que. Alors moi je le vois un petit peu parce que j'ai accès aux fiches. En fait, avec les variantes, la fin du nom devient quasi obligatoire en fait.
Absolument, c'est pour ça.
Alors, vous allez pouvoir écouter, vous allez apprendre des choses que j'apprends en même temps que vous d'ailleurs. On va commencer par l'origine de votre nom.
Alors l'origine, en fait, je dirais que j'ai trouvé à 50%, mais j'ai une interrogation à 50% restant.
D'accord. Alors, avant tout, Janine, est-ce que vous-même, de votre côté, vous avez des informations ?
De toute façon, on est originaire du Lot, et ça c'est sûr. Au départ même, il n'y en avait pas beaucoup, parce que mon mari est né à Cahors, et au départ, il y avait très très peu de Thalaisa, et puis je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, et puis plus ça va, et plus il y en a, voilà.
Ah oui, alors les fameuses variantes. Alors, vous avez fait la petite danse de la victoire, Jean-Pierre Huguin, pourquoi donc ?
Eh bien parce qu'effectivement, c'est un nom qui est très porté dans le Lot, et on le rencontre d'ailleurs dans ce même département sous d'autres formes. Alors il faut dire que je connais bien le département du Lot, puisque c'est le département où je me suis marié, et en particulier à Cahors.
Félicitations.
Donc je connais bien le coin.
Ah, oui.
Alors en fait, le nom Thalaisa, il désigne celui qui est originaire d'un lieu dit qui porte ce nom, mais dans le Lot, je n'ai pas trouvé ce lieu dit. Il faut qu'il reste à trouver, je n'ai pas trouvé de lieu dit Thalaisa sous cette écriture-là. Hein. Alors est-ce que ça s'est déformé au fil du temps ? C'est possible. Par contre, ce nom, il est à rapprocher d'un autre nom qui est Thalazac, Z-A-C à la fin, hein, Thalazac, T-A-L-A-Z-A-C, qu'on trouve en Haute-Garonne, dans le Haut-Pyrénées, et il y a même une variante Thalazac qui se termine par CQ à la fin, et qui renvoie à la commune Thalazac dans les Hautes-Pyrénées.
D'accord.
Oui.
Alors, sa signification, en fait, ça vient d'un nom d'homme latin, qui s'appelait Thalasius, T-A-L-A-S-I-U-S, voilà. Et avec le même sens, il existe dans le Cantal une commune également qui s'appelle Thalaisa, T-A-L-I-Z-A-T.
Et alors, donc là, on commence à bien débroussailler, on va dire, le mystère. Et il y a des variantes.
Alors, il y a deux variantes. Il y a Thalaisa, comme le nom que porte l'époux de Janine. Mais après le L, c'est pas un A, c'est un E. Et il y a un Thalaisa comme votre nom, mais à la fin, ce n'est pas un C, c'est pas un T, c'est un C. Alors pour ce dernier, d'ailleurs, pour Thalaisa, il existe deux hameaux qui portent ce nom, l'un dans l'Aveyron, sur la commune de Murols, et l'autre dans le Gers, sur la commune de Castéra-Lectoroy.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Mais en fait, mon beau-père, il avait juste un frère et ils étaient que deux. Et en fait, ils sont du Lot, et plutôt du côté de Neuzé-Jouls, finalement.
D'accord. Alors, il faut savoir que sous cette orthographe Thalessa, telle que le porte le nom de votre époux et puis de son père, en fait, c'est un nom qui est quand même relativement rare, puisque pendant la guerre 14-18, comme je dis souvent, c'est toujours trop, mais il n'y a eu que deux soldats morts en 14-18, tous les deux originaires du département du Lot.
Ah oui, en effet, voilà. En effet, oui.
Ça, et au niveau des données démographiques, il y a eu 69 naissances en France, ce qui est donc effectivement peu, 46 dans le département du Lot et 8 dans le département de la Gironde.
Oui, voilà.
Donc, c'est vraiment concentré dans le Lot, hein, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
Voilà.
Et ben voilà.
Oui. C'est bien.
Jeannine, merci de nous avoir proposé ce nom, parce qu'effectivement, on a découvert pas mal de choses. Alors, on va pas se battre sur la prononciation. Continuez à le prononcer comme vous le faites. C'est très bien.
Je suis toujours obligée de l'épeler quand on veut réserver quelque part, etc. Au téléphone, ils comprennent ma au lieu de ta. Enfin, bref. C'est pour ça que je l'épelle avec T comme Thérèse au début et à la fin. Voilà.
Eh bien, vous faites bien.
J'ai bien enregistré. Je vais dire au revoir, Madame Thalessa.
Voilà.
Soyez fiers de votre nom, Jeannine. Merci beaucoup. Très beau dimanche à vous qui êtes à Cugnot. On fait une escale à Blagnac maintenant. Bonjour, Annie.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben, ça va bien.
Alors, on va faire une petite respiration et on va vous retrouver dans un instant pour parler du nom de famille que vous avez choisi de faire étudier par Jean-Pierre Huguin. Quel est-il ?
Godot, G-O-D-O-T.
On se retrouve dans un instant.
Vous aussi, contactez les experts de France Bleu Toulouse. 05 34 43 31 31.
Les experts généalogie vous attendent. Oui, vous et pas quelqu'un d'autre. À condition de donner votre nom de famille au 05 34 43 31 31.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage.
27. Vous écoutez France Bleu Toulouse, c'était Frérot de la Vega, le dernier titre de Frérot de la Vega, c'était Ton visage. La suite des experts généalogie, c'est dans un tout petit instant. France
Bleu. Actuellement au Muséum de Toulouse, l'exposition Les Saventuriers rend hommage aux grands navigateurs, explorateurs, savants et découvreurs. 150 ans d'un incroyable voyage au Muséum de Toulouse. Infos sur muséum.toulouse.fr.
Quelles seront les énergies en 2050 ?
2050.
Comment rendre sa maison économe ?
Toutes les réponses sont à découvrir à Scientilibre, le festival des découvertes, des sciences et du livre.
Il est dans l'accélérateur temporel !
rencontres avec des auteurs, conférences, expositions et ateliers. 15e festival Scientilivre à Diagora la Belge, les 17 et 18 octobre. Un festival gratuit, un événement France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse, jusqu'à 10h, les experts.
Les experts généalogie, Jean-Pierre Huguin, vous savez tout sur tout. Vous pouvez remonter dans le passé de celles et ceux qui nous donnent leur nom de famille, ça fait presque peur. Cela dit, en ces temps de NSA, est-ce qu'on vous contacte depuis les États-Unis pour avoir des informations un peu confidentielles?
De la Louisiane.
Pardon?
Oui.
Ah mais carrément.
Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis en Louisiane,
c'est vrai.
Il y en a qui recherchent leur famille. Et puis, il y a, pas les États-Unis, mais le Canada.
D'accord. Ah, on va rester dans le coin, si ça vous embête pas pour aujourd'hui. Avec vous, Annie, vous êtes à Blagnac, vous n'êtes pas en Louisiane. Le nom que vous vouliez faire étudier, vous nous l'avez exposé il y a quelques instants, c'est Godot.
Voilà.
Alors, comment vous l'écrivez?
G-O-D-O-T.
Jean-Pierre Huguin.
Eh bien, c'est très simple. Godot, ça vient du nom d'une personne d'origine germanique, qui s'appelle God, G-O-D, et qui signifie Dieu.
Ah oui. Alors attendez, excusez-moi Annie, je vous ai peut-être mal parlé, je m'excuse. Apparemment, vous avez l'air de quelqu'un d'assez important. parce que Dieu, dans la hiérarchie, si je me souviens bien, c'est quand même assez haut placé, hein, ça va. Bon, alors, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, fait quelques études sur votre nom de famille ou est-ce que vous ne savez rien?
Si, j'ai fait des recherches. Le premier Godot qui était venu dans le Comminges était né à Meurthe-et-Moselle, à Vaudemont, en 1780.
Petite danse de la joie, Jean-Pierre Huguin, encore une fois.
Alors effectivement, c'est un nom de famille qui est répandu dans la région de l'Est de la France.
Oui.
Et en fait, il représente une forme affective de Godin. Alors je ne sais pas, je ne vais pas me permettre de vous demander votre âge, mais Godin, G-O-D-I-N, c'est quelque chose qui est très connu. Souvenez-vous des poils Godin.
Oui, absolument.
Oui, oui.
Voilà.
Qui sont encore connus aujourd'hui. Hein,
c'est... Oui, mais c'est du haut niveau. Vous parliez de
c'est
Dieu,
ça.
Mais c'est pareil. Godin,
voilà.
C'était de la référence. Hein, voilà. Alors effectivement, il y a beaucoup de variantes hein, sur Godin. Il y a Godin G-O-D-I-N et Godin avec un O est une variante de Godin G-A-U-D-I-N. C'est un nom toujours formé de la même racine Dieu. Ça n'a pas changé. Mais Godin G-A-U-D-I-N, c'est surtout porté dans le Nord Pas-de-Calais et ainsi en Belgique également, on le trouve.
Oui, je vous confirme parce que j'ai quelques membres de ma famille qui sont plutôt dans le Nord du Nord et on voit du Godin assez facilement avec différentes variantes d'écriture.
Voilà. Alors, la racine, c'est Dieu, bien évidemment, mais il y a aussi une autre possibilité, étant donné qu'il y a le suffixe « -in » à la fin, c'est un nom d'origine germanique qui viendrait de « God », donc en germain « Waldo », qui veut dire « qui gouverne ». Donc Dieu qui gouverne, tout ça, c'est un peu parallèle. Hein,
mais toujours
quand même,
dans des notions de puissance, quand même, hein, genre assez important. Annie, une fois de plus, je vous témoigne tout mon respect, hein, attention.
Alors, mon grand-père qui s'appelait comme ça.
D'accord. Alors, au niveau Godin, vous avez énormément de variantes. Hein. Il y a G-O-D-2-D-I-N, il y a 2-D-Y-I-N, il y a un seul D-Y-I-N, il y a Godin G-O-D-D-Y-I-N-S. Ça se.
Ouais.
À l'infini, on en trouve. Hein.
À l'infini.
Oui.
Ouais. C'est vrai qu'il y a des variantes qui sont plus faciles à établir que d'autres. Au niveau historique.
Je vais faire une référence en restant très sage. Sur Paris, dans le 9e arrondissement de Paris, il y a une rue qui est, entre guillemets, qui est une rue assez chaude. Je vais faire un parallèle avec la rue de Belfort, ici à Toulouse.
D'accord.
Si vous voyez ce que je veux dire.
C'est vrai que j'habite en bas de la rue de Belfort, mais faites attention quand même. Hein.
Donc cette rue, elle s'appelle la rue Godot de Mauroy.
Voilà, je voulais savoir si de Mauroy avait quelque chose à voir avec Godot.
Eh bien, en fait, non, c'est un nom double, si vous voulez.
Ouais.
En fait, cette rue doit son nom à messieurs Godot de Mauroy, qui étaient les anciens propriétaires du sol où a été construit les immeubles et après le quartier. Mais c'est une rue référence, non pas seulement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est fréquentée par certaines dames, mais il faut savoir qu'il y avait un célèbre club polonais qui existait à l'époque, à une certaine époque, et c'est là où Chopin y passait ses après-midi pour jouer du piano.
Ça fait plus classe que de dire qu'il y a des dames de petite vertu qui s'y promènent quand même.
Et alors, on va revenir dans notre région, Pascal, parce qu'en fait, au 15 de la rue Godot de Mauroy, il y a un théâtre où la majeure partie d'un roman qui s'appelle Les Denigos tient lieu justement.
En attendant Godot.
Non, pas du tout. C'est les deux nigauds de la comtesse de Ségur.
Ah.
Et quand je dis qu'on revient à notre région, si, parce que vous savez que les petites filles modèles sont enterrées dans la banlieue toulousaine.
Ah. Oui, oui, oui.
Voilà. Alors, il faut savoir aussi que cette rue Godot de Mauroy, elle tient également une place centrale dans le roman Paris d'Émile Zola. Hein, et c'est là que se trouve également l'hôtel particulier d'un grand banquier qui s'appelle Duvillard, qui a été élevé au rang de baron par l'empereur et qui sera détruit par un attentat anarchiste. Donc c'est quand même une rue quand même où il y a eu des belles personnalités.
Ah bah, je suis un peu. Annie, vous parliez à l'instant de En attendant Godot, et
oui,
effectivement on peut mais oui, on peut pas faire l'impasse.
Alors on peut pas faire l'impasse, mais ce qui est assez terrible dans cette pièce de Samuel Beckett, c'est qu'en fait, donc c'est une pièce qui est récente puisqu'elle a été publiée en 1952. En fait, il faut savoir que ce roman, enfin cette pièce est un peu particulière parce que on ne connaît pas le nombre de scènes, le nombre de scènes n'est ni décompté ni annoncé, et la première page du manuscrit porte simplement une date, le 9 octobre 1948, et elle se termine par la date du 29 janvier 1949. Donc c'est un peu ce qu'on dit quand on parle de En attendant Godot, c'est une pièce qui est un peu dans le domaine du théâtre de l'absurde. Mmh. Voilà.
Jean Ionesco...
Exactement. Ça, ouais. Alors, qui est ce fameux Godot? Eh ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien pour la simple raison que cette pièce est animée par deux vagabonds qui s'appellent Vladimir et Estragon. Ils sont sur scène, sur une route de campagne avec un arbre, quoi, et ils attendent Godot. Mais le Godot viendra jamais.
Et on a de la chance que ça soit tombé sur votre nom, Godot, parce que ça pourrait être n'importe quoi. On est effectivement dans le domaine de l'absurde. Vous l'avez vu cette pièce, En attendant Godot?
Non, je ne l'ai pas vue. J'ai lu des extraits comme ça.
D'accord. Ouais. Presque ça suffit. Hein. Quand, quand on voit le déroulé de la pièce telle que vous la racontez, Jean-Pierre Huguin.
Ouais.
Voilà. Alors au niveau des données démographiques.
Alors données démographiques, 1267 naissances en France. Alors c'est un peu, on va un peu partout. Hein. Dans la Saône-et-Loire, 189 naissances. En Côte d'Or, 176, la Meurthe-et-Moselle, 125, le Doubs, 115, et j'ai encore une fois cherché en Midi-Pyrénées, 17 en Haute-Garonne.
Bon, voilà. C'est pas l'endroit où il y en a le plus. Disons que vous êtes un peu bien partout, cela étant, hein, le nom est assez répandu. Vous pouvez vous promener, vous aurez des, je vais pas dire des membres de votre famille, c'est pas jusque-là, mais pas loin.
Ouais, voilà. Les premiers, le premier Godot qui était venu était donc né en 1780. Il
D'accord.
était venu dans un petit village qui s'appelle Luscan.
Ah, mais vous savez plein de choses, ben voilà.
Et vous connaissiez son métier?
Ah non.
Ah, ça serait intéressant de savoir pourquoi il est arrivé à cette époque-là avant la Révolution.
Ouais.
Bon, on va relancer l'enquête. Merci beaucoup Annie, vous savez tout, presque sur votre nom Godot. On a fait quelques petites apartés du côté théâtre et c'était très intéressant. Merci de nous avoir laissé votre nom 05 34 43 31 31, vous qui êtes à Blagnac. Marguerite, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes à Balma.
Oui.
On va vous retrouver dans un petit instant. Quel est le nom que vous vouliez faire étudier, Jean-Pierre Huguin?
Battu, B-A-T-U-T.
À tout de suite.
On fait la route ensemble avec le Crédit Mutuel. Des solutions téléphonie innovantes pour toute la famille et les professionnels.
La circulation est fluide, c'est aujourd'hui dimanche, vous êtes peu nombreux sur la route, donc ça va plutôt bien. Faites juste attention si vous êtes sur la 64 et que vous remontez en direction de Toulouse, juste avant de rentrer sur la roquette toulousaine, vous allez croiser un véhicule en difficulté, une voiture en panne plus précisément, qui est déjà sur le bas-côté. Donc si vous remontez sur cette pyrénéenne en direction de Toulouse, vous entrez sur la roquette toulousaine par l'échangeur de Bordelongue, l'échangeur 25. Faites attention à vous, il y a juste un véhicule en difficulté avant de rentrer sur la roquette toulousaine.
That's the way you do it. You play the guitar.
Sur France Bleu Toulouse, vous avez reconnu les Dire Straits, Money for Nothing.
Vous aussi, contactez les experts de France Bleu Toulouse, 05 34 43 31 31.
Dernière direction à Balma et à Toulouse, on va commencer avec vous Marguerite qui est à Balma, bonjour.
Bonjour.
Alors le nom de famille que vous vouliez faire étudier ?
Battu.
Jean-Pierre Huguin. Je vous présente Marguerite. Avez-vous des informations compromettantes à son sujet ?
Pas du tout. Bonjour Marguerite. Alors, bonjour. Votre nom, en fait, il y a deux possibilités.
Oui.
C'est la première possibilité, c'est un nom de famille du Midi qui oui. représente le participe passé du verbe occitan « battre », B-A-T-R-E, avec le oui. sens topographique d'un bois de friche.
Ah voilà, oui.
Hein ? Alors, c'est un nom caractéristique d'un domaine ou un nom de lieu ou un hameau et qu'on trouve assez fréquemment dans la région Midi-Pyrénées. Ça, c'est oui. la première possibilité.
Mais vous en avez une autre.
J'en ai une autre. Il y a une seconde possibilité, qui est un nom, effectivement, écrit de la même manière, qui est surtout porté dans le Puy-de-Dôme, mais on le trouve également un petit peu dans les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn-et-Garonne. Et pour cette deuxième possibilité, il faut pour en découvrir le sens, il faut se rapprocher du nom Labattu. Mais Labattu, on est en période de chasse, hein, pas Labattu avec un E. Hein,
oui,
Labattu,
oui, oui.
L-A-B-A-T-U-T.
D'accord. Hein.
Alors, Labattu, c'est un toponyme, c'est-à-dire donc un nom propre qui désigne un lieu, et il désigne également un bois défriché, et on pense oui. toujours pareil au verbe abattre en occitan, et donc c'est fréquent également dans le sud-ouest.
Donc les ouais. deux origines se rapprochent quand même.
Elles se rapprochent, oui, mais bon... Il n'y a pas de lien entre les deux, c'est ça qui me surprend un petit peu. Alors, il faut savoir qu'en fait, dans la version Labattu, il désigne le plus souvent la personne, qui est originaire d'une localité qui porte ce nom.
Ah d'accord, oui.
Voilà. Donc, il y a plusieurs communes qui s'appellent Labattu, hein, dans l'Ariège, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, et des hameaux, alors j'en ai trouvé, mais vraiment à l'appel, comme on dit. Hein. Alors,
avant de rentrer dans les variantes, Marguerite, vous avez déjà vous-même quelques informations sur l'origine de votre nom ?
Eh bien, comme je fais de la randonnée pédestre, souvent, et notamment dans la région Midi-Pyrénées, j'ai vu des lieux-dits qui s'appelaient Ambattu. Et j'avais demandé aux habitants du village, et ils m'avaient dit que ça voulait dire « en jachère ».
Ben voilà, on rejoint le bois de friche.
Ouais, voilà, jachère, ou alors des fois, des lieux où il y avait eu des massacres pendant la guerre, ils m'ont dit.
Oula, vous faites une drôle de tête.
Oui, là je suis assez sceptique parce que...
Bon, c'est les habitants qui
ont... Oui, non, mais je vais vous donner une raison. En généalogie, pour les noms de lieux, ce qu'on appelle les toponymes, on se rallie souvent à... à une carte qu'on appelle une carte de Cassini, qui avait été faite il y a bien des siècles. Ouais. Et ce lieu existe déjà à l'époque et il n'y avait pas de guerre récente, on va dire. Ouais. Quoi. Ouais. Donc,
Oui, donc c'est une mauvaise interprétation. De toute façon, les origines sont antérieures.
Ouais, oui.
Alors, il y a des variantes à ce nom.
Alors, il y a des variantes aussi bien pour Battu que pour la Battue. Alors, pour Battu, votre nom, donc, c'est B-A-T-U-T, mais on trouve Battu, B-A-T-U, dans les Landes et dans les Vosges. On trouve Battu avec un D final en Cantal. On trouve Battu avec un S final dans la Creuse. On trouve Battu avec un Z final en Haute-Savoie. On trouve Battu, tout simplement, B-A-T-U, dans l'Hérault.
Et sur la variante la Battue ?
Alors pour la Battue, eh ben on trouve 2TU, 2TUT, TUD et la Battue LA, BA, TUE.
Voilà.
Alors, mais toujours lié, hein, c'est pas la Battue, espace Battue, hein, qu'on soit précis. Hein.
Oui, oui.
Et vous avez trouvé des personnalités qui portaient ces noms ?
Oui, alors il y a deux personnalités. Il y en a une qui est surtout connue dans notre région, qui s'appelait Arthur Battu, qui était né en 1846 à Castres et qui est mort d'ailleurs dans le Tarn à la Bruguière en 1918. C'était un photographe français. Alors pourquoi je vous parle de ce photographe français ? C'est parce que c'était le pionnier des portraits types, mais c'était surtout le découvreur de la photographie aérienne automatique en France.
D'accord.
Oui, qui a permis de découvrir nombre de sites enfouis, en fait, la photographie.
Absolument,
aérienne,
hein, absolument. Les photos aériennes, on parle toujours d'Artus Bertrand, mais en fait, c'est lui, c'est grâce.